Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On va simplement parler ce soir un peu de la miséricorde. Vous savez ce que c'est la miséricorde? C'est pas rien, on trouve quand même 159 fois dans la traduction second le mot miséricorde. C'est pas rien. La miséricorde a deux sens, bien sûr distincts, complémentaires. Exercer la miséricorde, c'est littéralement un sentiment qui nous amène à prendre à cœur la misère, la détresse du prochain. Oh, le mot, vous savez, c'est un misericordia, il est formé de miserere, avoir pitié en quelque sorte, et de cor, cordis, le cœur. La compassion qui est considérée comme un synonyme, qui veut dire pâtir, souffrir avec. La miséricorde, dans le deuxième sens, nous pousse à pardonner les fautes des autres. Et ce deuxième sens est très lié au premier. Notre Dieu est rempli de miséricorde. Au 536, vous connaissez très bien, une phrase sur deux, car sa miséricorde durera toujours. On a vraiment conscience de l'insistance du Saint-Esprit pour nous faire entrer dans le cœur cette grande vérité. C'est comme des coups de marteau, peut-être, qui seraient donnés. Car sa miséricorde durera toujours. Et ça revient constamment. Moïse, on peut dire en parlant comme les hommes, comme les hommes du monde, c'était une pointure. C'était une pointure, Moïse, je sais pas ce que vous pensez. Extraordinaire quand même. L'Éternel parlait avec lui face à face, comme un homme parle à son ami. Extraordinaire. Nombre 12:8 nous dit d'ailleurs qu'il parlait bouche à bouche, tout près. C'est extraordinaire. Et cet homme étant près de Dieu, il avait des désirs spirituels. Et à un moment donné, il s'est écrié, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Bien sûr, plus on est près du Seigneur, et plus on a des désirs spirituels, plus on a des aspirations spirituelles. Alors, placé là, au creux du rocher, couvert par la main de Dieu, il a entendu ces paroles, l'Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. C'est comme ça, finalement, que l'Éternel se révèle encore davantage à Moïse. C'est extraordinaire. Dans le cantique de Zacharie, on trouve aussi cette expression « grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut ». Alors déjà, que le mot « miséricorde » comprend, sous-entend, une pensée de saint maternel dans le sens des plus tendres affections. Et quand il est rajouté entrailles de miséricorde, C'est vraiment une expression très très forte. Nous l'avons d'ailleurs lu dans le texte d'introduction. C'est vrai que comment vous pourrez intercéder ce Dieu de miséricorde avec un cœur froid? Je pense que nous avons besoin d'élargir encore nos entrailles, en quelque sorte. Ah, l'apôtre Paul faisait ce reproche aux Corinthiens que leurs entrailles s'étaient rétrécies. Nous avons besoin d'élargir nos entrailles. Jésus manifestait pleinement la miséricorde divine. Il était ému devant compassion, devant notre misère, et il pardonnait même les péchés. Hein. 9 fois dans les évangiles, on voit qu'il fut ému de compassion. Mais quand vous y réfléchissez, dans le fond, ému de compassion, est-ce que c'était seulement intérieur? Je pense que ça s'entendait dans sa voix. Je pense que ça se voyait extérieurement. Les disciples devaient le voir, hein, ému de compassion. Nous, vous savez, on essaye de cacher nos émotions. On est quelquefois fiers. On essaye de cacher nos émotions. Je ne crois pas que le Seigneur cachait son émotion quand il était ému de compassion. Je ne crois pas. Alors, il y a toujours des imitations. C'est vrai que l'âme de certains ou de certaines est très sensible. Et devant les fictions, il y a bien des pleurs qui sont répandus. Hein. Mais, pourtant, sur cette terre, quand on pense à la misère, aux souffrances de nos frères et de nos sœurs dans le monde, il y a de quoi pleurer toutes les larmes de son corps, non? Si on ne regarde qu'à cela. C'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle est équilibrée, hein. Elle dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et puis, par exemple, 1 Corinthiens 12, 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, mais si un membre est honoré, les membres se réjouissent avec lui. La parole de Dieu est vraiment équilibrée. Sinon, ça serait dur, hein. S'il n'y avait pas de joie. Eh oui, on peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et se réjouir avec ceux qui sont honorés. Il y a un climat favorable à la prière quand réellement nos cœurs sont émus de compassion. Pour le frère, pour le pécheur perdu, pour le malade, pour celui qui pleure, pour le frère persécuté. Et je crois que l'oreille de Dieu n'entend pas la même chose quand le cœur est ému, quand nos cœurs sont émus. Quand vraiment nous sommes un, nous souffrons avec celui qui souffre. Le cœur de Dieu n'entend pas la même. Ce serait malvenu, je pense, de faire monter des prières seulement par devoir. Tel est malade, bon, c'est mon devoir, prier pour lui, c'est bien, mais je crois que il y a une dimension d'amour, hein, et une dimension de miséricorde. Et pour que notre prière ait une bonne odeur, en quelque sorte, il est bon que le cœur, notre cœur, soit accordé avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas insensible à notre misère et à nos détresses, à nos difficultés. Alors il y a un deuxième volet, en quelque sorte, à cette pensée de miséricorde. C'est un sentiment qui nous pousse à pardonner. Alors, on comprend très bien qu'il y a un pardon unilatéral avec des gens du monde, bah oui, des incroyants, bon, on comprend. Maintenant, il faut quand même admettre qu'entre enfants de Dieu, ce serait un peu normal qu'il y ait souvent un pardon réciproque. Pardonnez-vous réciproquement. Comme c'est beau, hein, quand deux enfants de Dieu tombent les bras dans les bras l'un de l'autre et se demandent pardon. En particulier avant de prendre la Sainte Cène, par exemple, c'est beau. Hein. Et je crois que les demandes de pardon sont trop rares parmi les enfants de Dieu. Hein. On est trop fiers. Alors, quelquefois, on va dire, il y a un bourreau, puis une victime. Bah, je sais pas, moi, je suis pas né d'hier, mais j'ai l'impression que souvent, il y a deux bourreaux. Ouais. Ah oui, il y a un sentiment de vengeance, alors il y a des mauvais coups qui sont portés de droite et de gauche, pour ne pas dire qu'il y a deux victimes, victimes des manœuvres de l'adversaire et de leur ancienne nature, de mauvaise nature. Jésus a dit, si ton frère a péché, reprends-le. Alors là, c'est une œuvre d'amour. C'est pas, si on le fait dans cette démarche, dans une autre pensée, ça ne va pas fonctionner. On risque d'avoir bien des déceptions. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, cette fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Bon, cette fois. On appelle ça une supposition hyperbolique. C'est-à-dire que ça, c'est là pour nous faire comprendre, finalement, que l'amour n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. D'ailleurs, Pierre a posé la question au Seigneur, est-ce que je lui pardonnerai cette fois? Le Seigneur lui a dit, non, c'est pas cette fois, mais 70 fois cette fois. Ah, on comprend bien. La charité, l'amour, n'a pas de limite. Mais on peut craindre quelquefois que l'esprit de rancœur, de ressentiment, de vengeance soit plus répandu qu'on le pense. C'est dommage parce que très souvent, il faut reconnaître... C'est le temps qui passe, hein, qui fait son œuvre. Et on est tout fier. Oh, j'ai pardonné. Oui, mais c'est le temps qui a fait son œuvre. Nous sommes appelés à ressembler au Seigneur Jésus. Amen, amen. Pierre, dans Pierre 2, 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge, justement. C'est vrai que nous ne sommes pas spirituels quand nous nous drapons dans notre dignité, oubliant notre indignité, oubliant que le Seigneur nous a pardonné. Nous avons péché contre Dieu, c'est vrai. Nous l'avons dédaigné, nous avons été indifférents, nous avons résisté à sa volonté, nous avons négligé sa parole, nous avons vécu dans l'injustice, on est quelquefois maudits au lieu de bénir. Il y a un chant qui disait avant, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Eh bien oui, le Seigneur a oublié nos fautes quand nous sommes humiliés devant lui. Alors ça, nous ne sommes pas appelés à un ressentiment tenace, bien sûr, et qui ne ferait qu'envahir nos pensées, nous empoisonner, et qui créerait un climat peu favorable à l'exaucement. Nous ne sommes pas exaucés, c'est vrai, à cause de nos mérites, c'est bien évident. Mais faisons en sorte que rien ne fasse obstacle à nos prières. Nous avons besoin d'un cœur humble qui sait s'humilier devant Dieu et devant les hommes. Nous avons besoin d'un cœur miséricordieux qui sait ce que c'est que pardonner et demander pardon. C'est vrai que le cœur miséricordieux n'éclaironne pas les faiblesses des autres. La charité couvre une multitude de péchés. On raconte pas n'importe quoi. Elle ne les approuve pas quand c'est avéré, mais elle ne les colporte pas. Le souverain sacrificateur, lui, n'apportait pas les péchés du peuple en dehors du tabernacle. Il les apportait dans le lieu très saint. Il faisait l'expiation. Il avait demandé la grâce, en quelque sorte. Oh, le frère Intel, vous savez pas ce qui se passe? Oh là 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 là, bof. C'est vrai qu'ils racontèrent de mensonges, ont pu être dit sur certains, les frères et sœurs ont été salis, meurtris par des rumeurs sans fondement. Alors, je vais vous parler des passoires de Socrate, hein, vrais, utiles, bons, etc. Bon, vous savez tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais nous sommes appelés des instruments de paix, de bénédiction qui contribue à encourager, à consoler, à fortifier les autres dans la foi. Gardons-nous de travailler à l'envers. Méfions-nous de cela. On ne travaille pas pour la guerre, on ne travaille pas pour le diable, on travaille pour le Seigneur. Alors, Luc 6, 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. » Absolvez, vous serez absous, pardonnez, vous serez pardonné. Darby a traduit acquittez, vous serez acquittés. La parole de Dieu nous dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alors ces sentiments-là vont créer un climat favorable à l'exaucement de nos prières par Jésus. Il est bon de nous approcher de Dieu avec un cœur qui s'accorde au cœur de notre Seigneur. Amen.
Amen.
Amen.